9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. En France, il n'y a pas de majorité sexuelle. Les sénateurs veulent la fixer à 13 ans. Et l'inceste avec un mineur n'est pas pénalisé en tant que tel. Une autre spécificité française. Katia Dubreuil, la présidente du syndicat de la magistrature, est en direct avec nous ce matin. Elle va nous expliquer pourquoi. Je recevrai ensuite l'économiste Jacques Delplat. Il fait une proposition originale pour que tous ceux qui le désirent soient vaccinés contre le Covid dans les plus brefs délais. Jacques Attali, pour son nouveau livre Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après, et l'historien David Chantran sur le bicentenaire cette année de la mort de Napoléon Ier. Bonjour Katia Dubreuil.
Bonjour.
Vous êtes présidente du syndicat de la magistrature. Alors le Sénat a adopté cette semaine à l'unanimité une proposition de loi fixant le consentement des mineurs à l'âge de 13 ans. En effet, il n'existe pas en France de majorité sexuelle, comme on le croit, hein, ou plutôt il n'en existe plus. Donc il n'y a pas d'âge en dessous duquel le consentement n'existe pas. C'est ce que voudraient changer les sénateurs en fixant le seuil à 13 ans. Mais comment ça se passe en réalité dans les faits, dans les tribunaux ?
Eh bien, la loi pose déjà de manière très claire le fait que le mineur ne doit pas être vu comme un adulte au regard des relations sexuelles, qu'il doit être protégé spécifiquement, puisque d'abord, il existe un délit d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, donc c'est même pas 13 ans, c'est 15 ans, donc c'est 7 ans d'emprisonnement encouru pour tout acte sexuel, qu'il y ait consentement ou non, commis par un majeur de plus de 18 ans sur un mineur de moins de 15 ans. Et puis, concernant les infractions de viol, qui sont punies de façon plus lourde, 20 ans de réclusion criminelle encourue quand c'est un viol sur mineur, la jurisprudence retient bien évidemment déjà le fait qu'il peut y avoir une contrainte morale en fonction de l'âge de la victime. On considère que, et on le regarde cas par cas, des jeunes victimes n'ont pas le discernement suffisant pour être en mesure de consentir à un acte sexuel, et donc il peut y avoir une contrainte morale et un viol, y compris si la victime n'a pas résisté, etc. C'est encore plus le cas d'ailleurs si c'est dans la famille, s'il y a un acte incestueux, parce que on va de manière évidente considérer qu'il y a une autorité de l'auteur sur la victime. Et par ailleurs, la loi prévoit en plus, depuis 2010 et puis récemment depuis 2018, a inscrit un peu cette jurisprudence qu'on appliquait dans la loi en disant que quand il y a une différence d'âge, une autorité de l'auteur sur la victime, c'est une contrainte, ou quand il y a une absence de discernement liée à l'âge pour les mineurs de moins de 15 ans.
Néanmoins, il n'y a pas de majorité sexuelle comme on le croyait. Et il y a deux ans déjà, Marlène Schiappa et Nicole Belloubet, qui était la ministre de la Justice de l'époque, avaient présenté un projet de loi visant à instaurer à 15 ans l'âge minimal de consentement. Et ça n'était pas passé à l'époque. Pourquoi cette spécificité française ?
Ça voudrait dire qu'on automatiserait en quelque sorte dans une matière criminelle, c'est-à-dire pour apprécier si un crime a été commis puni d'une peine très lourde, on automatiserait la réponse pénale sans aller regarder au cas par cas si le mineur était effectivement en mesure ou pas de consentir à l'acte en fonction de l'histoire, de la relation, de sa maturité psychologique, etc. Et sans avoir à regarder si l'auteur avait conscience effectivement d'exercer une contrainte morale sur la victime. Et l'âge auquel on serait sûr que dans tous les cas il ne peut pas y avoir de consentement, il est très difficile à définir. Et d'ailleurs on le voit bien dans les débats qui existent depuis plusieurs années. Certains disent 13 ans, d'autres 14, d'autres 15. Et donc on n'a pas finalement un âge où il est absolument possible de dire que en dessous de cet âge-là, tout mineur subirait un viol s'il y avait une relation sexuelle avec un majeur. Et on risquerait, en automatisant finalement, d'attraper des situations dans lesquelles, en réalité, il ne s'agit pas d'un viol ou d'un acte répréhensible. On peut citer l'exemple d'une mineure de 14 ans qui aurait des relations sexuelles dans le cas d'une relation consentie avec un jeune homme de 18 ans et demi. Est-ce que on doit prévoir dans la loi qu'automatiquement, ce serait qualifié de viol puni de 20 ans de réclusion criminelle ? Et donc, à l'époque, le Conseil d'État avait dit au gouvernement que le Conseil constitutionnel risquerait de considérer ces dispositions, cette automatisation, comme inconstitutionnelle. C'est la raison pour laquelle le gouvernement avait renoncé. Et le Sénat, d'ailleurs, à l'époque, était d'accord avec cette position. Et donc, il y a un revirement qui est dû, une fois de plus, à l'émotion causée par la gravité, évidemment, de ce type d'acte et au fait qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'actes de ce type qui sont commis en toute impunité, avec la difficulté pour la justice d'y répondre.
Alors là, effectivement, Des gens très nombreux ont découvert que l'inceste en France n'est pas un crime, et ça ne date pas d'hier. Hein. Entre adultes consentants, on peut avoir des relations sexuelles avec des membres de sa famille proche. Ce n'est pas interdit par la loi, même quand il s'agit de ses enfants, de ses parents ou de ses frères et sœurs. Mais entre adultes consentants, cela ne signifie pas que ça n'est pas sévèrement réprimé quand la victime est mineure.
Oui, bien évidemment. En fait, effectivement, c'est pas le caractère incestuel qui est puni par la loi en soi. Donc, effectivement, un frère et une sœur, en théorie, peuvent avoir des relations sexuelles consenties à l'âge adulte sans que ce soit punissable. Ce qui est punissable, c'est la contrainte, c'est l'absence de consentement. Et donc, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, quand c'est une relation dans la famille entre un enfant et un adulte, la justice va considérer de manière très évidente que il ne peut pas y avoir de consentement d'un enfant, par exemple, quand son père ou son beau-père commet des actes à caractère sexuel sur lui. Donc c'est punissable, c'est punissable en tant que viol, l'inceste. Et d'ailleurs, il y a une qualification inceste. Enfin, on peut qualifier un crime de viol d'inceste, et c'est une qualification qui apparaît, si vous voulez, dans la condamnation quand ça a été commis dans la famille. Donc l'inceste n'intervient dans la qualification que lorsque le viol en lui-même est prouvé. Mais le viol, quand il s'agit d'un enfant en matière d'inceste, le viol est en soi très facile à démontrer, si vous voulez.
Et ça changerait quoi d'écrire dans le code pénal que l'inceste avec un mineur est un acte criminel ? Beaucoup le réclament, ça changerait quoi ?
Ça changerait rien, puisqu'en réalité, c'est déjà, d'une certaine façon, c'est déjà ce qui est écrit lorsque, dans la loi, il est prévu que quand le viol commis par un majeur sur un mineur est commis dans le cercle familial, on peut qualifier ce viol d'incestueux. Donc, on voit bien qu'il y a un interdit supplémentaire, alors qui se traduit pas par une circonstance aggravante, mais qui est exprimé par la loi par le fait que la condamnation dans le casier judiciaire va porter cette mention de l'inceste comme quelque chose d'encore plus grave finalement par rapport aux faits qui ont été commis.
Enfin, on voudrait qu'en cas d'inceste, les abus sexuels sur mineurs deviennent imprescriptibles, comme les crimes contre l'humanité. Alors, est-ce que c'est possible ? Et là encore, qu'est-ce que ça changerait ?
Bien, écoutez, on a déjà eu une réforme en 2018. Donc tous ces sujets-là ont été mis sur le tapis. On a fait passer la prescription de 20 ans à 30 ans après la majorité de la victime mineure. Déjà, nous avions exprimé nos réserves en disant que plus on allongeait le délai de prescription, plus on faisait naître des espoirs qui allaient être déçus. Et c'est très difficile pour une victime qu'on lui dise on n'a pas assez de preuves, parce que malheureusement, quand on fait des enquêtes très longtemps après les faits, on n'a en général pas de preuves pour pouvoir condamner, et donc ça aboutit à des non-lieux, à des classements sans suite ou à des acquittements aux assises. C'est des choses qui sont quand même très difficiles à vivre pour les victimes, et donc il nous apparaît qu'il faut surtout travailler au meilleur recueil de la parole de l'enfant le plus tôt possible par rapport à la date de commission des faits. C'est comme ça qu'on va réussir à avancer. Donc c'est briser la loi du silence, et évidemment, notamment quand il s'agit d'inceste, c'est évidemment un principe, c'est qu'il y a une loi du silence qui fait que l'enfant ne peut pas exprimer ce qui se passe, mais il faut former l'ensemble des personnes qui travaillent avec les enfants à déceler les signes, à pouvoir faire éventuellement des signalements, à pouvoir recueillir la parole de l'enfant sans l'influencer, etc., etc. C'est là-dessus qu'on peut agir, effectivement, pour mieux répondre, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a une impunité trop grande par rapport à ce type de fait actuellement. Mais allonger le délai de prescription, ça veut dire qu'effectivement, on met au même niveau différentes infractions qui n'ont pas la même signification au regard de la gravité des atteintes. On met au même niveau, par exemple, que le génocide. Et surtout, donc quel sens ça a ? Est-ce qu'on veut donner ce sens-là à ces crimes-là ? Mais surtout, ça va faire naître des espoirs et faire des enquêtes et donner des décisions qui vont être extrêmement douloureuses pour les victimes.
Merci Katia Dubreuil, je rappelle que vous êtes présidente du syndicat de la magistrature. On se retrouve juste après une pause avec l'économiste Jacques Delplat.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour Jacques Delplat.
Bonjour Frédéric, bonjour Europe 1.
Vous êtes économiste, vous tenez notamment une chronique dans le quotidien Les Échos, et cette semaine vous avez conseillé à la Commission européenne de payer plus cher les doses de vaccins pour en recevoir davantage et surtout beaucoup plus vite. Et tout à coup, ça m'a paru frapper au coin du bon sens. En effet, on se dit, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de doses, on voudrait vacciner le plus grand nombre de gens et le plus vite possible, et finalement ce serait ça la réponse. En fait, les pays plus chers.
Oui, tout à fait. Et plus chers s'ils arrivent plus tôt. Le cœur de ma proposition, c'est de dire les vaccins à peu près qu'on achète ou qu'on pourrait faire valider très vite, ils valent en moyenne 10 euros par dose. Mon point, c'est que ce n'est pas suffisamment cher et parce que ça ne prend pas en compte le jour de la livraison. Pour vous et moi et pour les auditeurs, un vaccin délivré demain matin ou juste après demain matin a beaucoup plus de valeur que dans un an.
Et oui, parce qu'on a hâte tous, enfin la plupart d'entre nous, nous avons hâte d'être vaccinés. Et en fait,
vous avez un risque de mourir d'ici 12 mois, vous avez les obligations d'être du confinement, vous risquez de contaminer vos proches et vous perdez de l'argent parce que vous pouvez moins bien travailler ou vous êtes au chômage à cause de la pandémie. Donc, attendre, c'est un coût considérable en termes humains, financiers, économiques, sociaux. Vous pouvez pas voir vos amis, etc. Donc, vous êtes prêt à payer beaucoup plus cher pour être vacciné demain matin que dans 12 ou 24 mois.
Mais alors, attention, qu'on me comprenne bien, vous proposez pas ce que chacun dise, moi, je suis prêt à payer tant, vaccinez-moi. Non, vous voudriez que l'Europe...
Non, bien sûr.
L'Europe qui a négocié un prix fixe par dose, hein, et qui a bien négocié, puisqu'elle l'a obtenu, paraît-il, avec 25% moins cher que les États-Unis, mais elle l'a obtenu indépendamment de la date de livraison.
Voilà.
L'industrie pharmaceutique n'a donc pas d'incitation particulière à livrer demain ou dans 6 mois. Et vous, ce que vous voudriez, c'est qu'elle soit incitée à nous livrer demain, le plus vite possible. Et pour ça, vous proposez de payer 150 euros la dose, si c'est livré demain matin.
Si elle est livrée demain matin.
Mais pourquoi 150 euros, d'ailleurs ?
C'est l'Europe qui négocie pour nous tous. Et c'est bien parce qu'on considère que la vie de quelqu'un dans les pays baltes vaut la vie d'un Français ou d'un Allemand. Donc ça, c'est très bien. Donc j'ai fait des petits calculs. Je vais être très vite là-dessus, mais... L'État français, quand il fait de la planification des routes, des ronds-points, des choses comme ça, il estime ce qu'on appelle la valeur de la vie statistique à 3 millions d'euros. Vous prenez ce qui ressort de la pandémie, c'est-à-dire que vous avez une chance sur 1000 de mourir du Covid dans l'année, donc ça fait 3 millions d'euros, divisé par 1000, ça fait 3 000 euros. Donc la valeur pour vous maximale d'un vaccin, c'est 3 000 euros. Le vaccin, il faut 2 doses, donc ça fait 1 500 euros. Et là-dessus, je considère... Donc ces 1 500 euros, c'est le prix maximum qu'on serait prêt collectivement à payer au Big Pharma, au grand laboratoire pharmaceutique, pour être très bien vacciné et très vite. Donc moi, je considère qu'en la négociation, l'Europe a le monopole dans la négociation. Et donc, je considère que l'Europe ne va payer que 10% de ce qu'on appelle la valeur du bien-être. J'arrive à quelque chose qui est 300 euros par... Si c'est fait demain matin à 300 euros, comme il y a
deux doses, ça fait 150 euros. C'est pas seulement du bien-être, hein, Jacques Delplat, puisque au moment où l'Europe a négocié, il n'y avait pas encore les variants anglais, sud-africains qui nous pressent aujourd'hui de vacciner le plus vite possible, le plus de gens possible. Donc évidemment, ça a changé beaucoup de choses. Alors vous proposez non seulement de payer plus cher pour que les doses arrivent à partir de demain, mais aussi de payer plus les personnels pour que les vaccinations aient lieu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Ouais,
on l'a bien vu, hein. La contrainte est double. Hein. On n'est pas livré assez vite, mais on vaccine trop lentement. Et donc, il faut absolument accélérer. Et le meilleur moyen, c'est de payer aussi les gens pour le faire.
Ça doit créer beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de production. Il ne s'agit pas de prendre les lots qui sont pour je ne sais pas qui, les Africains, les Sud-Américains. C'est de dire au laboratoire, on vous paye demain beaucoup plus cher si vous produisez beaucoup plus. Et de ça, tout le monde en bénéficiera, les Africains, les Asiatiques, les Américains.
Oui, parce qu'ils seront obligés d'investir dans la fabrication
à grande
échelle.
C'est une proposition qui est bonne pour l'Europe. C'est une proposition qui est bonne pour l'Europe, mais qui est aussi bonne pour le reste du monde. C'est une fois de plus augmenter massivement la production de vaccins. Et tout le monde y gagne. Et la deuxième chose, bah, après, il faut les administrer, ces vaccins. Et alors aujourd'hui, si vous faites ça du lundi au vendredi, 8 heures par jour, vous perdez du temps. Donc il y a des endroits, commencer par Londres, où ils vaccinent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ma proposition était toute simple. Les infirmiers ou tous les soignants qui font des heures supplémentaires dans la journée pour vacciner auraient la valeur de leur heure supplémentaire multipliée par deux. Et s'ils acceptent de faire dans la nuit, ça serait midi, voire quatre. À partir de ce moment-là, ils devaient y être intéressés, sachant qu'on peut rappeler aussi les gens qui sont infirmières à la retraite, tout type de soignants, voire en former en quelques jours, quelques semaines, parce qu'il ne faut pas, probablement pas plus de quelques jours pour savoir comment faire une seule vaccination.
C'est intéressant de voir comment une campagne de vaccination s'organiserait si elle était menée par un ou des économistes, hein, puisque les calculs que vous faites, par exemple, c'est si on vaccinait les gens avec un mois d'avance, ce serait 6600 morts de moins et 1% de PIB en moins évité, sans compter le bien-être, les vies qu'on arrête de gâcher à chaque fois qu'on confine ou qu'on fait des couvre-feux ou qu'on empêche les gens d'ouvrir leur magasin. Tout ça, c'est des vies gâchées, sans oublier les hôpitaux qui risquent d'être débordés par la contamination avec les nouveaux variants et le nombre de morts qui risquent de se multiplier.
Etc. Oui, c'est sûr. C'est des chiffres très simples. L'année dernière, sur 10 mois, il y a eu 65 000 morts. Donc ça fait en moyenne 6 500 morts. Hein. Donc c'est ça, c'est tout simple. Et le PIB, il y a eu une récession de presque 10% du PIB sur 10 mois. Donc ça fait à peu près à chaque mois de confinement, ça fait un point de PIB à moins. Donc ça fait 25 milliards à chaque fois. Donc le gain à faire, il n'y a aucun... Ça devrait poser aucun problème politique ou de finances. Bercy, quand je dis ça, le ministère des Finances doit être absolument ravi.
Mais en même temps, Jacques Delplat, vous savez bien que tout le monde se dit en le lisant, bah oui, c'est pas une mauvaise idée, et en même temps, vous savez que ça n'a quasiment aucune chance de voir le jour.
Alors, pour votre information, il y a le directeur, le numéro 2 du ministère des Finances allemand, qui m'a envoyé un petit mot en me disant qu'il trouvait ça très intéressant et qu'ils allaient y réfléchir.
Ah, bah alors, allez savoir. Merci Jacques Delplat, je rappelle que cette chronique a été publiée dans le quotidien Les Échos. On se retrouve dans un instant avec un autre Jacques, c'est Jacques Attali qui publie une histoire des médias.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadie.
Bonjour Jacques Attali.
Bonjour Frédéric Tadie.
Après avoir publié des histoires de la propriété, de la musique, de la médecine, de l'alimentation, de la mer, vous publiez Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux. Ça vient de paraître chez Fayard et ça débute à peu près par cette phrase. Depuis toujours, l'homme a besoin de savoir ce qui le menace, ce qui nuit aux autres ou ce qui les sert. Ça pourrait être le départ d'une histoire de l'espionnage aussi.
Vous avez tout à fait raison. L'espionnage, c'est la recherche la plus pointue, la plus aiguisée, des informations les plus cachées. Et le journaliste en est un d'une autre façon. Mais l'espion fait partie de la grande quête humaine des informations. Alors, c'est des informations privilégiées pour des privilégiés qu'il essaye de gagner. Et au début, en effet, comme toujours, l'information est un pouvoir, d'autant plus qu'elle est secrète, confidentielle, et qu'elle peut être ainsi soit prise, soit utilisée, soit volée.
Au fond, vous racontez l'histoire d'un monopole, mais l'histoire d'un monopole qui s'effrite progressivement. Hein. L'information est d'abord réservée aux puissants, aux princes, puis aux marchands, et elle se démocratise et elle devient elle-même une marchandise.
Exactement. Ça commence assez tôt, en fait, parce que dès le XIVe siècle, il y a quelques marchands qui se disent les lettres qu'on échange entre nous ont une valeur en dehors de ce qu'elles valent pour chacun de nous. Elles ont une valeur parce qu'elles contiennent des informations politiques, climatiques, économiques qui ne dépassent nos propres affaires. Donc on pourrait les vendre. Et ils commencent à vendre des lettres confidentielles manuscrites, ça s'appelle les avisi. Et puis quand l'imprimé arrive, ces lettres deviennent des lettres imprimées avec une très forte censure des princes vénitiens, du pape, des princes flamands. Et puis quand la censure se lève progressivement, surtout en Flandre, puis en Grande-Bretagne, puis dans ce qui va devenir les États-Unis, puis seulement après en France, ces lettres deviennent des journaux qui commencent au XVIIe siècle en Allemagne, puis aux Pays-Bas, et aux Pays-Bas étrangement en français, parce que à l'époque la France est une chape de plomb très censurée, comme la Grande-Bretagne qui va se libérer avant la France, mais bien après les Pays-Bas.
C'est drôle d'ailleurs parce qu'en France, on a un culte pour Théophraste Renaudot, notre premier journaliste, qui en fait, vous le racontez en détail dans votre livre, publiait véritablement un organe de propagande.
C'est-à-dire, c'était pas du tout un journaliste.
C'est quasiment Richelieu qui lui dictait les articles.
Exactement, c'était pas du tout un journaliste, c'était un courtisan qui gagnait sa vie en écrivant les articles que lui demandait Richelieu, pour un petit public, hein, il avait 4000 lecteurs, mais on en a fait le chantre, le parangon de la du journalisme, il est tout sauf journaliste, même s'il passe son temps à dire « je veux dire la vérité, rien que la vérité, tu parles ». Il ne disait qu'il n'était que la voix de son maître, alors qu'à l'époque, il y avait déjà des journaux bien plus diffusés aux Pays-Bas en français, puisqu'il y avait les protestants qui réfugiés aux Pays-Bas, exilés aux Pays-Bas, qui écrivaient des journaux en français, qui étaient lus dans toute l'Europe, y compris en France, tandis que Théophraste Renaudot n'était que la voix de son maître, assez peu considéré.
Ça commençait mal hein, pour nous. De même, c'est une question que je me suis toujours posée, pourquoi l'investigation chez les journalistes, une spécialité anglo-saxonne? On a l'impression que ça vient très très tard en France. Hein. Même le Canard Enchaîné, sous le général de Gaulle, c'est un journal satirique, mais qui ne fait pas d'investigation. Ça viendra plus tard, sous le président Pompidou.
Oui, parce que la presse en France, aux États-Unis, c'est très vite des journaux d'investigation, parce que l'investigation, c'est d'abord la défense de la liberté. La presse a joué un rôle très important, presse d'investigation, dans la construction de l'indépendance américaine. C'est en révélant les turpitudes de la colonisation que les premiers journaux britanniques aux États-Unis dans les colonies britanniques en Amérique ont commencé à exister. Donc l'investigation est au cœur de la liberté de la formation et de ce qui va constituer l'essence de la société américaine. Tandis que dans une société extrêmement saussurée comme la société française, la presse ne sert pas à ça. Elle sert à donner des petites annonces, elle sert à donner des informations, elle sert aussi et surtout à véhiculer des idées, des opinions. On est plus une presse d'opinion qu'une presse d'information.
Alors quand on lit votre livre, Jacques Attali, comme à peu près tous vos livres d'histoire globale d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est la technologie, le moteur de l'histoire. Hein, et dans les médias, ça n'y manque pas. Ce sont l'invention de l'imprimerie, du télégraphe, du train, du téléphone, de la photo, de la radio, de la télévision, d'Internet qui révolutionne à chaque fois la manière de délivrer de l'information et de la consommer.
Exactement. Il n'y a pas de parti pris. J'ai essayé de suivre cette histoire et d'en tirer des lois ex post, pas ex ante. Et ça commence plutôt, puisque vous avez la gentillesse de lire mon livre, ça commence avec le cheval, avec la roue, avec ce qui va constituer le début du mouvement qui va permettre de développer la poste à cheval et qui va être vraiment une première évolution par rapport à l'homme qui allait au pas. Mais en effet, tous ces mouvements jusqu'à Internet aujourd'hui sont là, et il faut bien se rendre compte, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour montrer que ça s'arrête pas à Internet. Aujourd'hui, on a les yeux rivés sur les réseaux sociaux, sur les GAFA, etc. Mais il faut voir que ceci n'est qu'une étape dans un tsunami qui s'accélère et qui vient vers nous, et qui va aller bien au-delà de ce que font les GAFA dans les réseaux sociaux.
Vous observez également que, depuis toujours, les moyens de distribution des messages privés se transforment les uns après les autres en moyens de communication de masse. Le courrier est devenu le journal, le téléphone est devenu la radio, la photographie est devenue la télévision, le message électronique est devenu les réseaux sociaux.
Voilà. C'est un théorème qu'on peut appliquer. C'est en voulant transmettre des informations personnelles qu'on invente un média. Le journal vient avec la visie, qui est le message que les marchands vénitiens transmettaient à leurs partenaires, et c'est devenu un journal, mais c'était d'abord une lettre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les autres sont ainsi nés aussi, comme la radio et la télévision, et les réseaux sociaux commencent par le courrier électronique, qui ensuite, sans presque le savoir, deviennent des médias.
Donc ça n'est pas fini, ça ne s'arrête pas, ça continuera, et nous aussi ça continue, mais dans un instant. Jacques Attali.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Jacques Attali, dans Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux qui vient de paraître chez Fayard, vous trouvez une autre loi. C'est celle selon laquelle les médias cherchent depuis toujours à connaître les goûts de leurs clients pour les surveiller, les séduire, les distraire, capter leur attention. Pourquoi le font-ils? Enfin, est-ce que c'est depuis toujours véritablement? On voit bien qu'aujourd'hui c'est le cas, évidemment, que ce soit la presse, la radio, la télévision.
C'est toujours le cas depuis que les journaux ont besoin les médias ont besoin de gagner de l'argent pour gagner leur vie et pour survivre. C'est-à-dire depuis le début de la presse écrite, le XVIIe siècle. Pour les médias publics, c'est pas le cas. Mais pour les médias d'avant. Mais pour les médias qui ont besoin de gagner de l'argent, il faut le faire. Et tout de suite, ça a été le cas. C'est dès le XVIIIe siècle qu'on voit des journaux distribuer des cadeaux à leurs abonnés. C'est dès le XIXe qu'on voit les journaux essayer de fidéliser les lecteurs par des feuilletons et d'essayer de connaître au maximum ce que pensent leurs lecteurs pour savoir quoi leur vendre. Et évidemment, l'apparition des technologies nouvelles de réseaux sociaux permet de démultiplier encore plus ces moyens et de savoir ce que pensent les lecteurs en permanence, de savoir même quel type d'article les lecteurs ont envie de lire.
Mais nous, en tant que lecteurs, en tant qu'auditeurs, en tant que téléspectateurs, ça nous convient très bien parce qu'au fond, on veut être conforté dans nos goûts, dans nos opinions, dans nos certitudes. Ça consiste à nous fabriquer, au fond, du confort intellectuel.
Ça nous sert à nous gratifier, qui est le cœur des choses. On a envie d'être gratifié. Pour être gratifié, il faut lire ce qu'on a envie de lire, entendre ce qu'on a envie d'entendre. Et donc, on s'enferme dans ces univers qui sont fabriqués pour nous en fonction de cela, qui leur permettent de nous garder comme captifs, mais qui en même temps leur permettent de connaître nos goûts et de nous suggérer des produits à acheter. Parce que tout ça fait que l'information n'est que le support du commerce. Soit parce que les médias eux-mêmes, les nouveaux médias gagnent de leur vie par la publicité, soit au-delà de cela parce qu'ils sont intéressés aux ventes des produits dont ils font la commercialisation et la propagande.
On a vu ce que ça a donné aux États-Unis où à la télévision, par exemple, l'envie de se distraire l'a largement emporté sur le besoin de s'informer. Et puis les chaînes d'information continue sont nées justement du fait que la télévision partait vers la distraction et faisait de moins en moins d'informations. Et comme leur public était moins vaste, là, tout à coup, c'est l'idéologie qui s'est substituée en partie à l'information.
Exactement. Il y a eu très vite des journaux qui ont souhaité informer. Hein. Ça a été la grande gloire des grands journaux britanniques et américains du 19e siècle et puis de quelques journaux français, même si la plupart des journaux français au 19e siècle, au 20e siècle, la première partie étaient des journaux corrompus et qui cherchaient à gagner de l'argent dans des affaires avec les banques. Mais en effet, il y a eu une demande d'information de plus en plus grande avec des lecteurs de plus en plus lucides et intéressés, et ce qui a fait que d'ailleurs ça a commencé avec la radio qui a développé dans les années 20 aux États-Unis et en Grande-Bretagne des programmes d'information exceptionnels qui ont permis de suivre en particulier la Seconde Guerre mondiale avec des correspondants de guerre extrêmement présents, très écoutés depuis même avant la guerre, dès 1937-38, avec des extraordinaires correspondants de guerre américains en Angleterre et en Allemagne, et en Italie et en France. Et puis après, il y a eu cette volonté, et c'est avec Ted Turner et avec CNN, puis avec tous les autres qui ont suivi, qu'on a vu s'installer des médias d'information qui ont très vite évolué dans des médias de propagande.
Aujourd'hui, vous dites qu'on n'a jamais disposé d'autant de moyens d'information et il n'y a jamais eu autant de gens en situation de fournir des informations fiables. Et pourtant, la majorité d'entre nous a l'impression d'être mal informés. Comment l'expliquez-vous ?
D'abord, quand on est noyé de choses, on ne sait plus quoi choisir, donc on ne sait pas qui sont les vrais. On est tellement noyé aussi d'informations qu'on ne sait pas vérifier. C'est même le cœur de mon cri d'alarme. C'est la très grande difficulté de hiérarchiser l'important et l'essentiel, et aussi, et peut-être surtout, la très grande difficulté de discerner le vrai du faux. On vous balance aujourd'hui une information fausse, on sait la manipuler, la mettre en forme, la packager, la relayer, et elle s'installe comme une vérité. Et ensuite, ceux qui essayent de dire qu'elle est fausse passent pour des empêcheurs de tourner en rond. Donc il y a une grande bataille qui va s'aggraver avec les technologies qui viennent, les technologies des hologrammes, des journalistes automatiques, de l'écriture des articles d'une façon fictive et virtuelle, tout ça qui vient, qui est déjà là. Hein. Pour l'instant, c'est vous qui m'interviewez, c'est moi qui parle, mais après-demain, ça sera un hologramme qui m'interviewera et ça ne sera pas moi qui serai là. Et il parlera comme moi et il parlera comme vous et on ne saura pas s'il dit ce que je pense, mais il aura ma voix et il fera croire que j'ai pensé et dit ce que je dis. Donc il y a un très grand risque d'un glissement de l'information vers la distraction qui est en cours, mais dans la distraction, ce qui est le cœur maintenant, c'est le jeu vidéo, et on va voir l'information glisser vers le jeu vidéo, on aura des informations en trois dimensions, en hologramme, on fera partie de cette information, ce qui sera absolument fascinant, parce qu'on aura même un jour accès au toucher, à l'odorat dans l'information. Mais est-ce que ça sera vrai? Est-ce que ça sera fictif? Comment vérifier qu'on vous amène véritablement sur un théâtre d'opérations militaires ou si on vous amène dans un jeu vidéo? Ça sera extrêmement difficile et c'est la clé de l'avenir, c'est de savoir si l'information va rester ou devenir de plus en plus un lieu d'expression de la vérité, avec des journalistes qui disent ce qui est vrai et faux, avec des universitaires qui le disent, avec un jour peut-être des applications qui, comme plus loin que Wikipédia, nous permettront de savoir très vite si une information est une fausse nouvelle, ou si on va aller dans un monde de l'irréalité totale où les hommes seront manipulés à l'infini par quelques réseaux gratifiants ou par quelques puissances d'argent ou politiques ou idéologiques ou religieuses qui seront cachées derrière.
Merci Jacques Attali. Je précise d'ailleurs que dans ce livre, vous êtes très optimiste pour la radio. La radio a encore un grand avenir devant elle, d'après vous, hein ?
Oui, parce que le grand média d'accompagnement, le grand média nomade, les podcasts lui donnent une douzième nouvelle vie, douzième ou treizième. Et je crois beaucoup à l'avenir de la radio, en effet, alors que la presse papier, elle, est presque définitivement condamnée, sauf au Japon.
Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux, le nouveau livre de Jacques Attali vient de paraître chez Fayard. On se retrouve dans un instant avec David Chantrane. On va parler de Napoléon. Et oui, 2021, c'est l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour David Chantrane.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes historien, rédacteur en chef de Napoléon Ier, la revue du souvenir napoléonien. Vous êtes également attaché de conservation du musée Napoléon de Brienne-le-Château. Vous venez de publier en cette année napoléonienne, hein, puisque 2021 va nous permettre de commémorer le 200e anniversaire de la mort de l'empereur. Vous publiez « Les 12 morts de Napoléon » aux éditions Passé Composé. Et vous nous faites remarquer, alors je me suis demandé si vous étiez le premier, en tout cas je ne l'avais jamais lu, que Napoléon est mort à l'âge très précis de 51 ans, 8 mois et 21 jours, c'était en mai 1821, et que si l'on enlève le mois de mai et qu'on ne garde que les chiffres, ça donne 5-1-8-2-1, 5 mai 1821, ça donne 51 ans, 8 mois, 21 jours.
Oui, donc voilà,
c'est une coïncidence oui, évidemment, c'est une sacrée coïncidence.
C'est une sacrée coïncidence et ça va donner naissance à toutes les supputations pour dire, voilà, alors s'il y a une telle coïncidence, il a sans doute été empoisonné ou alors lui-même a voulu marquer d'un saut surnaturel, justement, ce que je disais, sa mort. En réalité, pas du tout. Il y a une coïncidence, tout simplement, et c'est ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'il y a aussi une maladie qui va faire son œuvre. Et au-delà de ça, il y a toutes les conditions réunies pour que l'exil de Sainte-Hélène devienne un martyr. Et il le dira lui-même, il dira « il me manquait une couronne d'épines » et c'est Hudson Lowe, donc son geôlier britannique, qui va lui apporter.
Et parlons de son héritage, parce que Napoléon a été un des souverains les plus riches d'Europe, vraisemblablement celui qui avait la liste civile la plus prospère en tout cas. Et quand il, en 1815, après Waterloo, il a quand même plusieurs millions, 5 millions hein, à sa disposition. Il pense d'ailleurs partir aux États-Unis, ce qu'il ne fera pas. Il va être déporté par les Anglais à Sainte-Hélène. Mais bref, quand il va mourir, il fait son testament et il est comme tous les pères. Hein, il pense d'abord à son fils, mais aussi à tous ceux qui l'ont servi, qui lui ont rendu service d'une manière ou d'une autre, et il va leur donner à chacun de l'argent.
Il va leur donner à chacun de l'argent, un peu comme effectivement un bon père de famille, et il le fait aussi en donnant un sens politique à tout ça. C'est-à-dire qu'en réalité, il sait que son testament va être lu, on va travailler sur ce testament en regardant un petit peu qui vont trouver les bons points et les mauvais points, c'est un peu comme un maître d'école qui distribue, et il le fait avec son fils, forcément, parce qu'il l'imagine comme étant son héritier un jour.
Le roi de Rome,
le futur Napoléon II, qu'il imagine revenir un jour au pouvoir, ça aura le destin que Edmond Rostand voilà, racontera.
Malheureusement, il ne touchera jamais l'argent, d'ailleurs.
Il ne touchera jamais l'argent, mais aussi, il le fait avec ses membres de sa famille, avec les soldats les plus valeureux, et puis, plus largement, l'ensemble des villes ou des lieux qui ont tellement souffert de son passage à lui, ou du moins qui ont soutenu son effort de guerre, et en particulier deux villes, c'est pour ça aussi que ça me touche beaucoup, deux petites villes de l'Aube, Méry, et puis surtout Brienne-le-Château, où finalement tout a commencé, où tout va s'achever.
Brienne, où il était à l'école, on se souvient que ces images d'Épinal le montrent
la bataille de Boule de Neige.
Et vous avez touché, je crois, 1 million à l'époque.
Alors oui, la ville a touché 1 million. En réalité, au moment où ça va s'appliquer, ce ne sera que le Second Empire, c'est-à-dire sous Napoléon III. Et de ce million, il n'en restera que finalement à peu près que 500 000 francs, ce qui est beaucoup déjà à l'époque. Et à partir de ce legs, Brienne va notamment élever une statue et aussi, surtout, sa mairie. D'ailleurs, une particularité, la mairie de Brienne-le-Château, c'est une petite anecdote, la mairie de Brienne-le-Château est la seule sur laquelle le fronton, il est indiqué non pas liberté, égalité, fraternité, mais un buste de Napoléon.
Qu'est-ce qui reste de Napoléon aujourd'hui? Vous en parlez dans ce livre. Une silhouette, hein, d'abord. Il a gagné la bataille de l'image, dites-vous.
Oui, et cette bataille de l'image, en cela, il est très moderne. D'autres avant lui avaient tenté de le faire, on se souvient de Louis XIV, mais il n'y avait pas d'identification, ou du moins, il n'y avait pas un caractère si évident. Napoléon lui-même dira, et tout autour, ils le sauront, avec un seul bicorne, une main dans le gilet, n'importe qui d'autre que lui, ensuite, peut très bien se trimballer dans la rue et se promener en se disant « je suis Napoléon ». C'est pour ça d'ailleurs que les asiles sont assez remplis de Napoléon.
Et surtout que deux siècles après, on le reconnaîtrait comme imitant Napoléon.
Exactement, qu'on l'imiterait. Et cette force même de l'image, il s'en sert aussi sur le champ de bataille, il s'en sert aussi lorsqu'il y a des réceptions. Et il le dira lui-même, lui présent sur un champ de bataille, ça n'est pas 100 000 hommes qui sont actifs, mais c'est 150 000. C'est-à-dire que la force de l'image décuple les passions, décuple les envies, et que les soldats, avec ce petit caporal, comme on l'a dit, avec ce petit bicorne et cette redingote, eh bien, il gagne les enthousiasmes parce qu'il est sobre. Il n'a pas des plumets, il n'a pas des ors. En fait, c'est le petit peuple qui a choisi son empereur.
Ouais. C'est un destin romanesque, hein, celui de Napoléon. Il a fait des millions de morts, mais enfin, c'est quand même un destin romanesque. Et lui-même a défié la mort, vous le racontez, en 12 moments précis où il frôle la mort, Napoléon. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait plus beaucoup de souverains qui défiaient la mort de cette manière-là. Hein.
Non, et c'est ça qui change. C'est-à-dire que, vous avez raison, il y a un certain nombre de milliers de morts qui sont liés à ces guerres de la Révolution et ensuite avec lui de l'Empire, parce que l'Europe coalisée contre la France républicaine l'attaque parce que c'est l'égalité qui est en train de se diffuser à travers l'Europe. Et lui défie la mort de manière directe. C'est-à-dire que c'est le début des attentats. Le premier en 1800, c'est la première fois. Ensuite, on sait que les anarchistes vont beaucoup œuvrer de la sorte. Mais c'est le premier grand attentat contre un chef d'État. On avait tenté un peu avec Louis XV, mais ça n'est pas dans ses proportions. Donc, première attaque avec une voiture piégée. Une petite charrette à l'époque. C'est le premier également qui est au combat directement. Il ne choisit pas ses hommes pour leur dire « allez combattre » et puis le lendemain on fera les comptes. Non, il est directement sur le champ de bataille. Il vit sur place, il partage la soupe.
Il
charge avec les grenadiers. Et il en est blessé à Ratisbonne en 1809 et à Waterloo, il tente même de mourir sur le champ de bataille. Donc, c'est ça qui donne le sel aussi, l'intérêt.
On avait vu ça au Moyen-Âge. Les rois étaient à la bataille de Bouvines.
Oui, mais... exactement. Et il est un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il reprend une tradition qu'on avait oubliée tout au long de l'Ancien Régime. Et lui revient finalement aux affaires en disant « je combats » parce qu'il a été, comme vous le disiez tout à l'heure, à Brienne-le-Château. Il a été un élève de l'école des officiers, mais qu'il savait combattre. C'est ça la différence avec les rois qui, eux, étaient d'une certaine manière dans leur palais, dans leur château.
Parmi les 12 morts de Napoléon que vous racontez en détail dans ce livre, David Chantran, il y a la fois où il est à Jaffa, où il va au contact des pestiférés. Est-ce que ça n'est pas de la propagande ?
Si, alors ça devient de la propagande ensuite.
Parce que c'est un roi de la propagande,
Napoléon. Complètement.
Hein, il invente tout dans ce domaine.
En fait, c'est vraiment la communication. La propagande, on va dire que c'est l'aspect négatif de l'opération, ce qui va devenir par la suite. Mais au départ, l'idée, c'est de galvaniser ou du moins d'améliorer le sort de ses soldats. Tout simplement parce qu'il faut qu'ils soient utiles. Et que si on arrive à les récupérer et à les soigner assez rapidement, c'est ce qu'il va faire avec la peste à Jaffa. Si on arrive à les récupérer, eh bien, un jour, peut-être, peuvent-ils de nouveau être efficaces sur le champ de bataille. Donc, il prend sur sur sa propre santé pour approcher la peste. Il dégante sa main. Alors ça, c'est peut-être un peu de la communication à outrance. Mais il montre bien qu'il va au-delà. Et dans le cadre d'une épidémie comme on la connaît aujourd'hui, eh bien, lui, il a gagné la bataille de la communication et de l'image.
Ça s'intitule « Les 12 morts de Napoléon ». On ne va pas toutes les raconter, mais Dieu sait si on va parler beaucoup de Napoléon, j'imagine, pendant toute l'année 2021. Merci David Chantran. Le livre est paru aux éditions Passé Composé.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain à 9h. Après le flash, vous allez retrouver le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Mickaël Dermont. Qui est votre invité, Mickaël ?
Bonjour à tous. Eh bien, c'est Charles Michel qui est le président du Conseil européen. C'est le super réacteur du pouvoir en Europe. Il est à la tête des 27 chefs d'État.
Merci, Mickaël. Bonne émission.